RFI, il est 14h10 à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Chantal, bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, le Venezuela, des discussions doivent reprendre entre délégations du pouvoir et de l'opposition. Mais les pourparlers pourraient être éprouvés par l'affaire Oscar Pérez. Stéphanie Schuller nous explique pourquoi dans sa revue de presse. Donald Trump, sous le feu des critiques de deux sénateurs républicains, il lui reproche ses attaques répétées contre les médias. Hier, le président américain a remis ses fake news awards. Donald Trump, dont il était aussi beaucoup question dans l'actualité haïtienne, Washington a décidé que les Haïtiens ne seraient plus éligibles au visa travailleur invité. On fait le point avec Franz Duval du Nouvelliste. Et puis on vous emmènera en Amazonie à l'occasion du déplacement du pape François. Après une dernière étape dans le nord du Chili aujourd'hui, le souverain pontife se rendra au Pérou. Il visitera demain un foyer d'accueil pour jeunes en difficulté. Reportage dans ce centre dans quelques minutes. Et on se penche tout de suite sur la presse américaine avec vous, Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
À la une, le rendez-vous du gouvernement vénézuélien et de l'opposition aujourd'hui en République dominicaine. Leurs délégations doivent reprendre le processus de dialogue suspendu en fin de semaine dernière. Dialogue, on le rappelle, pour trouver une issue à la crise que traverse le pays.
Oui, à Saint-Domingue, tout est prêt pour recevoir les délégations, explique un porte-parole du ministère dominicain des Affaires étrangères en une d'El Universal. Mais à quelques heures de la rencontre, l'incertitude plane au-dessus de la table des pourparlers, car l'opposition reproche au gouvernement de Nicolas Maduro de vouloir salir les négociations avec l'affaire Oscar Pérez.
Alors, pour rappel, cet ancien membre de la police scientifique vénézuélienne avait survolé en juin dernier Caracas à bord d'un hélicoptère dérobé. Il avait lancé des grenades sur des bâtiments officiels sans faire de victimes. Lundi, il a été tué avec 6 autres personnes lors d'une opération des forces spéciales, alors qu'il avait annoncé sur des réseaux sociaux vouloir se rendre.
Et dans une lettre envoyée au président dominicain Danilo Medina, la coalition de l'opposition vénézuélienne, la MUD, qualifie la mort d'Oscar Pérez d'exécution extrajudiciaire et exige des clarifications avant toute reprise de dialogue avec le gouvernement vénézuélien. Au manque de transparence qui entoure cette affaire s'ajoute aujourd'hui un fait qui l'aggrave encore davantage, à savoir le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Intérieur et de la Justice, a accusé la délégation de la MUD d'avoir révélé le lieu où se trouvait Oscar Pérez lors de la dernière réunion en République dominicaine avec le gouvernement vénézuélien, écrivent les signataires dans la lettre dont Tal Cual publie aujourd'hui une copie. La MUD souligne qu'aucune réunion ne s'est tenue entre l'opposition et le gouvernement sans la présence des médiateurs internationaux. Nous refusons que le processus de pourparlers soit sali par des accusations irresponsables et entièrement fausses proférées par un membre du gouvernement du Venezuela, soulignent les signataires.
Alors Stéphanie, la question se pose, est-ce que la MUD met ainsi un terme aux négociations?
Alors pas encore tout à fait, ou pas tout à fait, mais elle estime, la MUD, que des accusations aussi graves mettent en péril la sérénité nécessaire à ce processus de pourparlers, auquel l'opposition se dit par ailleurs toujours dédiée.
Et soutenir ce dialogue, c'est l'objectif visé par l'Union européenne qui s'apprête à prendre de nouvelles sanctions contre Caracas. Avant une adoption formelle attendue la semaine prochaine, les 28 pays membres ont déjà donné leur feu vert. Parmi les personnalités sanctionnées figuraient le ministre de l'Intérieur et le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello. Direction à présent le Mexique, Stéphanie, où se tient en juillet l'élection présidentielle. L'un des principaux sujets de la campagne électorale, ce sera sans doute l'insécurité qui mine le pays.
Oui, la perception de l'insécurité, Pauline, s'est détériorée au cours de l'année dernière, apporte aujourd'hui La Jornada. Selon une étude menée par l'Institut National Stratégique, 3 Mexicains sur 4 considèrent que leurs communes sont dangereuses. Pour la plupart des personnes interrogées, les distributeurs bancaires représentent des lieux à haut risque. Si la sensation de vulnérabilité face à l'insécurité est plus développée chez les femmes que chez les hommes, plus de 8 Mexicains sur 10 tout de même ont décidé de modifier leurs habitudes quotidiennes afin de pouvoir protéger leur famille, rapporte Le Quotidien.
Et en Bolivie aussi, on est préoccupé par la prochaine élection présidentielle. Elle ne se tiendra que l'année prochaine, mais elle est déjà dans toutes les conversations.
Oui, puisqu'il s'agit de savoir si Evo Morales, l'actuel chef de l'État bolivien, doit briguer un quatrième mandat ou pas, non, estiment désormais de nombreux Boliviens. Pourtant, fin novembre, le tribunal constitutionnel bolivien a accordé au président le droit de se représenter, alors que la constitution de 2009 ne permet que deux mandats consécutifs et qu'en 2016, déjà, la population s'était prononcée lors d'un référendum majoritaire contre un mandat supplémentaire de son président. Pour ne rien arranger, le gouvernement Morales a promulgué fin décembre un nouveau code pénal qui suscite de vives critiques car il fait craindre une restriction des libertés individuelles.
Et c'est pourquoi une partie de la population se mobilise et lance un ultimatum au chef de l'État.
Exactement, ils estiment que Evo Morales devrait revenir sur tous ces points. S'il ne le fait pas la semaine prochaine, lundi, eh bien l'opposition menace d'organiser et d'appeler à une grève générale et une marche nationale vers La Paz, la capitale.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse. Aux États-Unis, Donald Trump continue d'attribuer les bons et les mauvais points aux médias, et surtout les mauvais. Il a décerné des fake news awards pour épingler les médias qui, selon lui, seraient les plus malhonnêtes. La liste inclut sans surprise CNN, le New York Times ou encore le Washington Post, cible habituelle du milliardaire. Et avant même cette remise de prix, deux sénateurs républicains ont donné, eux, de la voix contre le président américain à ce sujet. Extrait avec Eric DeSalve, pardon.
La charge vient du propre camp de Donald Trump. À la tribune du Congrès, le sénateur Jeff Flake ne mâche pas ses mots pour dire son exaspération devant les attaques quotidiennes du président américain contre les médias.
Quand la tête du pouvoir qualifie de fake news tout média qui ne lui convient pas, c'est ce pouvoir qui devrait être suspect, pas la presse.
Farouche détracteur de Trump, le sénateur républicain parle d'autant plus facilement qu'il ne compte pas se représenter. Il accuse le président américain d'utiliser une rhétorique stalinienne.
L'ennemi du peuple, c'est ainsi que le président américain qualifie la presse libre en 2017. Monsieur le président, quand notre président utilise les mêmes mots que ceux prononcés par Joseph Staline pour qualifier ses ennemis, cela montre dans quel état se trouve notre démocratie. Le despotisme est l'ennemi du peuple et la presse libre est l'ennemi du despotisme.
Alors que Donald Trump vient de décerner des fake news awards aux médias qu'il juge les plus malhonnêtes, la deuxième charge vient de John McCain dans une tribune au Washington Post intitulée « Monsieur le président, arrêtez d'attaquer les médias ». Il rappelle le rôle central des journalistes en démocratie. L'expression fake news à laquelle le président américain a donné une légitimité, écrit McCain, est utilisée par les autocrates pour réduire les journalistes au silence. Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Donald Trump qui fait aussi beaucoup réagir en ce moment en Haïti. On en parle avec vous, Franz Duval. Vous êtes rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour.
Le Nouvelliste qui titre même en une « Le cyclone Donald Trump continue de frapper Haïti ».
Alors qu'Haïti s'apprêtait à commémorer le 12 janvier dernier les 8 ans du séisme de 2010, puis à lancer sa saison carnavalesque, le président américain Donald Trump a décidé de mettre la pression sur le pays en lançant le 11 janvier des propos désobligeants contre Haïti. Depuis cette date, à la mauvaise publicité faite à la réputation du pays, s'ajoute une décision annoncée le 17 janvier de suspendre le programme de visas spéciaux pour les Haïtiens peu qualifiés employés dans les plantations américaines. Les fermiers et autres travailleurs haïtiens ne sont plus éligibles à l'obtention du visa travailleur invité à travers un programme fédéral américain, a rapporté le Miami Herald mercredi 17 janvier 2018. Bien avant cette décision sur les travailleurs invités, le président Donald Trump avait mis fin au programme de statut de protection temporaire, TPS, accordé à plus de 50 000 Haïtiens depuis le séisme de 2010.
Et ces déclarations, ces décisions de Donald Trump, comment les comprend-on en Haïti?
Les sentiments sont partagés. Beaucoup d'Haïtiens dénoncent l'arrogance et le racisme de Donald Trump. Certains, comme le premier ministre haïtien, préfèrent ne pas croire que des propos grossiers ont été tenus par le président américain. D'autres, enfin, jouent la prudence. Beaucoup d'Haïtiens ont la double nationalité, sont parents d'enfants binationaux, ont des intérêts aux États-Unis d'Amérique. Mais pour la grande majorité, c'est l'incompréhension qui prime et tout le monde se demande pourquoi Haïti est devenu la cible de Donald Trump. Ce mercredi, en interview avec l'agence de presse Reuters, le président Donald Trump a encensé les Haïtiens. « J'aime le peuple, il est très chaleureux », a confié le président américain à l'agence. « Et ils sont de rudes travailleurs », a ajouté le président américain. C'est à ne plus rien comprendre.
L'actualité haïtienne est aussi très marquée par les questions de migration en France.
40 212 migrants haïtiens ont été reconduits à la frontière haïtiano-dominicaine pendant l'année 2017 et 31 600 sont retournés de manière spontanée en Haïti. Ces statistiques sont publiées par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR qui constate que 68% de ces migrants sont des hommes contre 32% des femmes. Parmi ces migrants, le GAR dénomme 1795 mineurs non accompagnés. Dans son infolettre du mercredi 17 janvier 2018, le GAR, pour une énième fois, déplore les conditions dans lesquelles les autorités dominicaines réalisent des rapatriements au mépris des droits humains et du protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement paraphé entre Haïti et la République dominicaine le 2 décembre 1999.
Et s'il y a des retours, il y a aussi toujours des départs.
Plus de 104 000 Haïtiens sont entrés au Chili en 2017, soit 114% fois plus qu'en 2016, quand 48 000 Haïtiens à peu près s'étaient installés sur le territoire chilien, selon des statistiques communiquées par la police d'investigation chilienne. Cette augmentation exponentielle des arrivées des migrants haïtiens au Chili est sans précédent. En 2013, selon un rapport de la police d'investigation chilienne, ils étaient que 2428 Haïtiens à avoir foulé le sol chilien. Si les Haïtiens sont les bienvenus au Chili et s'y installent depuis quelques années, il y a des inquiétudes qui commencent à poindre à l'horizon avec l'arrivée d'ici le printemps d'une nouvelle administration qui doit remplacer celle de Michel Bachelet.
Merci Franz Duval, on vous retrouve jeudi prochain sur RFI. Et le Chili, justement, dernière étape du voyage du pape François. Il célébrera une messe à Iquique dans l'extrême nord, ville où vivent de nombreux immigrés, principalement péruviens. C'est d'ailleurs au Pérou que le chef de l'église catholique se rendra ensuite. Demain, il visitera la petite ville amazonienne de Puerto Maldonado et rencontrera les représentants des communautés indigènes de la région. Il se verra remettre un arc et une flèche. François réservera aussi du temps pour le foyer du Petit Prince, un lieu d'accueil des jeunes en difficulté créé par un prêtre suisse. Éric Sanson l'a visité.
C'est en 1974 que le prêtre suisse Xavier Arbex découvre la réalité tragique des enfants et adolescents attirés par le mirage de la fièvre de l'or dans la région à l'époque isolée de Madre de Dios, près de la frontière brésilienne et bolivienne. Dans les rues de Puerto Maldonado, il découvre aussi une autre réalité tragique, celle des enfants victimes de violences, que ce soit dans la rue ou chez eux. Adepte de la théologie de la libération, Xavier Arbex passe alors rapidement de la théorie à la pratique.
Quand la loi est sortie de la défense des enfants et adolescents par les municipalités, la municipalité ici devait appliquer la loi, elle n'avait pas les moyens. J'aime bien tout ce qui est éducatif. Je me suis décidé, on va essayer de les appuyer. Et on va les appuyer avec ce qu'ils ont le plus besoin, c'est d'un foyer ici. C'est pour accueillir tous ceux qui sont en situation de danger, surtout les familles désunies avec le beau-père qui poursuit les filles, ou bien les violences familiales, ou les orphelins.
Grâce à l'aide d'une bienfaitrice, un premier foyer est construit près du fleuve Madre de Dios. Il est nommé Saint-Vincent, en l'honneur de Saint-Vincent de Paul, pour qui les pauvres sont nos maîtres et que nous devons aider à pardonner l'aide que nous leur apportons. Rosa Consuelo y a vécu 5 ans.
C'était vraiment extra. Le père, les professeurs, l'ambiance, la nourriture, tout était vraiment bien. Tout le monde nous traitait bien. Moi, je suis arrivée alors que j'avais à peine 14 ans et je suis partie à 16 à cause de problèmes dans ma famille.
Menacé par les crues, le foyer doit être évacué et reconstruit près de l'aéroport. Il est baptisé le Petit Prince, pour qui on ne voit bien qu'avec le cœur, la devise du foyer fièrement peinte près de la porte d'entrée. Entre dortoirs, salles de jeux, ateliers électriques et mécaniques et un poulailler réparti sur un peu moins d'un hectare, le foyer accueille des enfants en danger qui peuvent être scolarisés. La capacité du foyer n'est pas infinie, mais reste importante pour une ville comme Puerto Maldonado.
40 enfants, mais on ne les abandonne pas à 18 ans. C'est-à-dire que ici, ça fonctionne comme une famille. On essaie de les lancer tous dans la vie avec des études, si possible, des études supérieures.
Aujourd'hui âgé de 24 ans, José Barra est entré au foyer en 2006. Il l'a aujourd'hui quitté, mais revient régulièrement.
Actuellement, je vis dans une maison à part, mais je viens tous les matins pour aider à l'entretien du foyer. Ici, vous savez, j'ai vécu 7 ans. 9 ans. C'est encore ma maison. On a toujours été très bien traités et cela m'a permis d'étudier. Et je termine aujourd'hui à l'université une carrière d'ingénierie industrielle.
Au-delà des dons envoyés notamment par les amis suisses du père Arbex, le foyer arrive à couvrir la moitié de ses frais de fonctionnement grâce à trois entreprises, une papeterie, un lodge touristique et un café glacier dont le nom a fait l'objet d'une décision de groupe. Rosa Consuelo.
Au cours d'une réunion avec le curé et les jeunes, chacun a donné son avis. On est tombé sur les gourmandises. Enfin, certains préféraient San Vicente au père Javier. Le curé a confronté les idées. C'est les gourmandises du curé qui revenaient et c'est ce qu'on a finalement choisi.
Ces trois entreprises permettent également de donner du travail aux jeunes du foyer. D'abord à temps partiel, puis à temps plein, pour leur permettre de prendre leur indépendance dans de bonnes conditions. Ce vendredi, tous pourtant n'iront pas travailler pour rencontrer le pape, Xavier Bex.
Le pape vient ici par tendresse envers les enfants, que les enfants puissent dire après, moi j'ai vu le pape et puis le pape m'a montré une église aimante. Il nous a encouragé, nous qui sommes victimes des abandons, victimes de la traite ou des choses comme ça, il est venu nous visiter.
Autre conséquence positive de la visite du pape, l'État termine la construction d'un toit sur le terrain de foot du foyer où François s'adressera aux enfants, saison des pluies oblige. Éric Sanson, Puerto Maldonado, RFI.
Le pape François visitera donc ce foyer du Petit Prince demain. En attendant, on jette un œil sur l'actualité des Outre-mer. Et c'est avec la première que ça se passe. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
On va tout de suite en Guadeloupe, toujours confronté à des problèmes de desserte en eau, des difficultés qui empoisonnent la vie des habitants.
Oui, alors que les élus guadeloupéens et les responsables d'associations et autres comités se déchirent plus que jamais sur la problématique de la distribution de l'eau, le citoyen lambda, lui, doit continuer à faire, comme on dit, au quotidien, avec un robinet qui ne coule pas ou qui coule une fois de temps en temps. Illustration avec ce reportage La Première Guadeloupe de Josiane Champion dans un salon de coiffure de Bémao, où, depuis le début de cette semaine, il n'y a pas eu d'eau mardi et mercredi.
La mauvaise surprise de se retrouver avec des robinets à sec. Ce scénario, Aurélie Vesky et Yannis Treffle y sont confrontés de manière répétée ces derniers mois dans leur salon de coiffure.
Il faut prévoir les réserves, donc à partir du moment où c'est de plus en plus fréquent, on a quand même pris pas mal de litres de réserves qu'on remplit à chaque fois.
Un fonctionnement qui forcément complique la réalisation des prestations.
C'est quand même très difficile parce qu'on est obligé de rincer nos couleurs et faire nos shampoings au bidon, donc on perd beaucoup beaucoup de temps.
Il faut mobiliser deux personnes pour pouvoir faire un shampoing, quoi. Il y en a un qui verse, qui rince et un qui fait le shampoing, quoi.
Pour rincer une couleur sur cheveux courts, il nous faut au moins 10 litres d'eau de rinçage en économisant. Forcément, un rinçage à la va-vite. Toutes celles qui ont l'habitude de faire des soins qui demanderaient encore 10 litres d'eau de rinçage ne les font pas aujourd'hui. Donc c'est un manque à gagner et pour elles et pour nous. C'est du vite fait bien fait en fait, c'est pas du beau travail.
Il arrive aussi qu'il faille refuser des clientes.
Quand la réserve est épuisée, on n'a pas trop le choix, quoi. Sur des gros services, par exemple une tête de mèche, une couleur à rincer ou un défrisage, ça c'est des trucs qui prennent beaucoup d'eau, quoi.
Et difficile de se fier au calendrier des tours d'eau.
C'est jamais très très précis, hein.
C'est pas annoncé, on subit, quoi. Ça fait un moment que ça dure et on entend toujours le même propos, qu'il faut encore aller vers l'État pour pouvoir faire un truc. Or, ils voulaient gérer le problème de l'eau et qu'ils n'arrivent pas à gérer, quoi.
Yannis et Aurélie, eux, ont appris à gérer la pénurie et la clientèle.
Aujourd'hui, tous les hommes qui viennent au salon ne se font pas faire de shampoing et malheureusement pour eux, ils n'ont pas leur massage alors qu'ils viennent presque plus pour ça que pour leur coupe de cheveux.
On reste en Guadeloupe où l'on suit de très près la proposition du député martiniquais Serge Letchimy de réformer l'indivision en Outre-mer, passer à une règle de majorité simple, 51% plutôt que la règle de l'unanimité, le tout plus particulièrement aux Antilles et en Guyane. Exemple, avec la commune de Saint-Claude où 21-25% des maisons du centre-ville seraient en indivision et donc souvent à l'abandon. Élie Califère, maire de Saint-Claude, est au micro de Ronan Ponet.
C'est aussi un problème d'hygiène, un problème de sécurité. Vous savez, les rats, c'est un problème de sécurité en période cyclonique. Et parfois, il faut que la ville intervienne. Et disons, les indivisaires, on ne les trouve pas toujours. C'est une situation particulière. C'est la raison pour laquelle nous suivons avec une particulière attention, disons, le projet de loi. Les 51% devraient permettre quand même aux choses d'avancer. On a réglé une situation, cela nous a pris au bas mot 11 années. 11 années avant de pouvoir rassembler les choses.
Bon après-midi, Pauline. À demain.
Merci et bonne journée à vous. Et enfin, dernier mot d'économie. La facture fiscale est lourde pour Apple. Le géant de l'informatique va payer 38 milliards de dollars sur ses bénéfices réalisés à l'étranger. La réforme fiscale votée en fin d'année dernière permet de rapatrier les bénéfices réalisés à l'étranger à des taux plus avantageux, variant entre 8 et 15% contre 35% auparavant. Voilà, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi et merci à Jonathan Brady de l'avoir réalisé.
Découvrez musique.rfi.fr. Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Julien Doré.
T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes.
Sur musique.rfi.fr,
amoureux de l'ombre,
vibrez en temps universel. Tu...